Objectif Startup, l'émission qui décrypte l'univers des startups, présentée par Bérénice Deville sur Cowork la radio.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Objectif Startup, l'émission dédiée aux startups sur Cowork la radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Adrien Contant. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes cofondateur et également CEO de Couvea.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que fait Couvea exactement ?
Alors, Couvea, on commercialise une solution d'enregistreur de température connectée qui vise à sécuriser la chaîne du froid de bout en bout. Donc, nos petits enregistreurs qu'on commercialise depuis 2019 sont placés dans des contenants qui permettent le transport de produits de santé, comme les vaccins Covid en ce moment, ou des produits alimentaires. Et ce, partout dans le monde.
Vous avez ramené un petit...
Un petit Katag, c'est ça. C'est l'une des briques de notre solution. Donc, on a l'enregistreur qui est plug and play, puisque 100% connecté, sans fil, qui fonctionne sur batterie pendant de longues années.
Alors, on voit à la caméra. Ah, pendant de longues années, du coup.
C'est-à-dire ?
Ça vous dit que ça fonctionne pendant de longues années ?
Ah oui, la durée de vie de ces enregistreurs, c'est entre 3 et 5 ans, ce qui est largement suffisant pour les usages que font nos clients.
En général, c'est quoi la moyenne de stockage des produits ?
Il faut savoir qu'il y a plein de produits qui transitent dans les espaces de stockage. Mais un vaccin, par exemple, entre sa fabrication et son utilisation, ça va être entre un mois, deux mois, jusqu'à six mois et 12 mois, grand maximum.
D'accord. Alors justement, là, on parle des vaccins, on en a beaucoup parlé, on va en reparler dans quelques instants. Hormis les vaccins, qui sont vos clients ?
Nos clients, c'est tous les acteurs de la logistique des produits thermosensibles, 60% la santé, 40% l'alimentaire. Donc dans la santé, ça va être tout le circuit, hein, donc de la production d'un produit de santé, donc des gros laboratoires pharma aux États-Unis, France, toute la partie distribution, donc des transporteurs, des logisticiens, jusqu'en bout de chaîne, les hôpitaux, les pharmacies, voire des patients.
D'accord. Et alors vos clients, donc français, américains, vous venez de le dire ?
Aujourd'hui, on est sur le marché national. 90% de notre activité, c'est en France. 10%, ça va être, oui, on travaille avec des ONG américaines, quelques activités sur l'Afrique et en Europe. Mais pour l'instant, ça reste encore minoritaire. On va dire que c'est une étape qu'on veut lancer dans les années à venir.
Il y a une grosse actu que vous avez dévoilée hier, une levée de fonds.
C'est ça.
Félicitations.
Ça nous a fait plaisir d'enfin pouvoir communiquer dessus. Donc 2,5 millions. Ce qui vient continuer notre croissance exponentielle. Ça fait deux années successives qu'on multiplie par 10 notre chiffre d'affaires pour arriver presque à 2 millions d'euros cette année. Ouais. Et donc les 2,5 millions vont nous permettre de recruter encore plus. Hein. On est 25 collaborateurs aujourd'hui, donc on a pas mal recruté ces derniers mois. Et on compte doubler les effectifs d'ici l'année prochaine et atteindre les 10 millions d'euros d'ici 2024 environ.
Vous êtes basé à Paris ?
Non. À Montpellier.
À Montpellier. Et justement, ça, vous prévoyez de changer, d'ouvrir une autre antenne ou vous restez à Montpellier ? C'est vrai qu'il y a l'accent, j'avais oublié.
Oui, ça s'entend souvent. Non, sans vouloir vous offenser, on tient beaucoup à notre région. Et non, on gardera le siège, l'activité de R&D, tout restera sur Montpellier. Après, la logique des choses veut qu'on va créer une antenne sur Paris pour le développement commercial. Donc, on va avoir des présences qui vont Paris, puis d'autres pays, très certainement, qui vont suivre.
Alors, c'est le transport de vaccins, en fait. Les vaccins qui ont accéléré un petit peu, on peut le dire, la crise sanitaire vous a été bénéfique. Ça a accéléré les choses pour vous. Comment ça s'est passé ?
C'est vrai que quand la crise a démarré, il y a une baisse d'activité pour énormément de personnes. Nous, ça s'est passé un petit peu en sens inverse. Il a fallu mobiliser une logistique autour des vaccins très rapidement. Et un vaccin, il faut le rappeler, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il respecte la chaîne du froid. Donc du moins 80, il faut qu'il soit conservé entre 2 et 8 degrés majoritairement. Si la chaîne du froid est brisée, le produit devient moins efficace, voire des fois plus du tout efficace.
Plus du tout efficace même, oui.
Aujourd'hui, on met en cause sans cesse l'efficacité des vaccins. Mais est-ce qu'ils ont bien respecté la chaîne du froid ? C'est souvent la question qu'on se pose. Donc oui, il a fallu mettre en place nos capteurs sur du transport, sur du stockage rapidement. Ça n'a pas multiplié par 3 le chiffre d'affaires, mais en tout cas, on estime que ça a été 20-30% de chiffre d'affaires en plus.
Comment vous vous êtes démarqué des autres ? 3 brevets en plus, 6 concours remportés. Comment vous vous êtes différencié ? C'est grâce à ça ?
Alors, on n'est pas en soi sur une innovation de rupture, on n'a pas réinventé la poudre, comme on le dit souvent. Des enregistreurs connectés, ça existait déjà il y a quelques années. Mais on a fait le constat que donc, ce marché était en forte croissance, de plus en plus de réglementation, mais que les solutions actuelles sur le marché étaient trop complexes. Du filaire, des automates complexes à connecter au réseau informatique qui prenaient de longs jours pour équiper des hôpitaux ou des véhicules.
Trop compliqué pour les clients, en fait.
Trop compliqué, trop onéreux. C'est-à-dire que seule une minorité avait accès à ces dispositifs. Nous, on a donc mis à profit toute cette technologie, nos brevets, pour simplifier la solution. Aujourd'hui, on le voit avec nos enregistreurs, plug and play, qui se placent dans les contenants en moins de 5 minutes, préconfigurés. On place une deuxième pièce qui est le K-Hub, notre routeur, qui va concentrer toutes les données, mais de façon complètement automatique. Le client n'a rien à configurer, n'a rien à brancher. Et ça nous permet de couvrir, d'équiper des véhicules de transport en Afrique, partout en Europe, en seulement quelques minutes. Là où nos concurrents n'étaient pas capables de le faire, et où c'était un frein pour beaucoup d'acteurs.
Est-ce que vous avez démocratisé un petit peu la surveillance de température? Là, vous l'avez rendue accessible à plus de personnes?
Oui, c'est complètement ça. Ils adressaient nos concurrents à une minorité sur des projets complexes. Nous, on l'a rendue accessible à une petite pharmacie avec pas forcément des gros budgets, comme des très gros laboratoires. On s'est aussi rendu compte que les clients cherchaient la simplicité, mais surtout du service. Une fois que c'est mis en place, il faut quand même maintenir le système, il faut le superviser. Aujourd'hui, on a un portail web accessible depuis une application mobile, depuis n'importe quel navigateur. Et en quelques secondes, le client va être autonome sur la solution, recevoir ses alertes.
Et ça, c'est important pour eux de tout suivre.
Ah oui, c'est une obligation légale. Ouais. Il y a des normes, je ne vais pas toutes les citer, il y en a beaucoup en fonction des secteurs. Mais aujourd'hui, c'était un frein pour eux parce que leur priorité, ce n'est pas de mesurer la température, c'est de livrer en temps et en heure des vaccins,
dispenser
des vaccins. Dans un hôpital, imaginez, les gens courent à droite à gauche pour dispenser les médicaments. Le suivi de température, c'était chronophage pour eux. Donc aujourd'hui, on leur fait gagner du temps et on s'occupe de tout à leur place. Donc c'est vrai qu'on est aussi les seuls, en plus de proposer cette technologie, les seuls à proposer une solution pour 100% par abonnement. C'est-à-dire qu'ils payent au mois, mais ils ne sont pas propriétaires des équipements. Ils nous occupons de la maintenance, du déploiement, des mises à jour à distance, de l'accompagnement, du suivi, etc.
3 ans, du coup, depuis le commencement, 2018.
C'est ça, oui, j'ai des fois du mal à compter. 2 ans et demi de commercialisation, c'est ça, 2018.
Le projet est né vraiment...
Alors, l'idée est un peu plus ancienne que ça. L'idée que j'ai cofondée seule avant de me faire entourer de mes deux associés actuels a démarré en 2015. Et c'était une idée sur une feuille de papier.
Donc l'idée a germé en 2015, en fait.
L'idée a germé en 2015 quand on a vu l'explosion des biotechs et le manque de solutions face à ça. Oui. Mais il a fallu 3 ans de R&D. On a travaillé avec des laboratoires partenaires sur la région de Montpellier pour mûrir une techno, pour tenir compte des dernières avancées technologiques, pour pouvoir l'intégrer dans notre solution.
Et alors, pourquoi cette idée en 2015? Quel était votre parcours avant ça?
Alors, sur les 3 fondateurs, on est 2 ingénieurs complémentaires. Moi, je viens du monde de l'électronique, mon associé de l'informatique. Le 3e associé, lui, est plutôt un profil complémentaire sur la partie finance. En 2015, c'était... Moi, je sortais d'un grand groupe de conseils, donc j'avais vu beaucoup d'activités dans la santé, l'énergie, et l'automobile et plein d'autres. Et sans cesse, on me parlait de la problématique de la chaîne du froid dans le monde de la santé. Donc, explosion des biotech, on ne sait plus où mettre les produits, tellement on doit en stocker, il faut les transporter. Et cette chaîne du froid nous embête, on n'a pas de solution adaptée. Et c'est de là qu'avec le savoir-faire que j'avais, j'ai décidé de mettre en place cette solution et de mettre à profit l'innovation techno, le fait d'avoir vu ces problématiques à droite à gauche et de mettre en place une solution vraiment efficace.
Donc depuis cette idée, comment ça s'est passé après, de 2015 à 2018? Quelles ont été les étapes?
Alors, ça a à la fois été rapide et long.
Ouais,
mais oui, quand vous partez d'une idée sur une feuille de papier et qu'on en arrive aujourd'hui avec une levée de fonds de 2,5 millions,
il y a du chemin.
Il y a eu un long chemin à parcourir. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut donc à la fois les associer, nos incubateurs. On a eu 2 incubateurs. On était au Mindalès, plutôt sur la partie techno avec les labos de recherche. Après, on est rentré dans un autre incubateur qui est le BIC de Montpellier, qui est pour nous l'incubateur qui nous a révélé, qui a fait sortir toutes les pépites sur Montpellier. Donc il faut rencontrer ces gens, il faut les convaincre, il faut trouver les moyens financiers.
Sans incubateur, aujourd'hui, vous n'en seriez pas là?
Je pense qu'aujourd'hui, sans incubateur, on ne fait rien parce que c'est un peu la reconnaissance, le label. Une fois que vous êtes incubé, que vous avez une reconnaissance, vous pouvez accéder à des moyens de financement. Sans incubateur,
vous avez
beau avoir une meilleure, la meilleure idée du monde, je pense qu'à moins d'aller sur des fonds privés, ce qui est extrêmement compliqué, ouais, c'est
une balle dans le pied. Donc, incubateur, ensuite, vous le disiez là, après ça.
Alors, on est toujours dans notre incubateur à Montpellier. Hein. Ouais. On est dans un espace de coworking, nous aussi. On va sûrement prendre notre envol dans nos propres bureaux d'ici la fin d'année ou début d'année prochaine. Mais oui, au début, donc, trouver les moyens de financement, s'entourer d'une équipe, les premiers recrutements, ultra important. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est 25. On va dire les cofondateurs ont un rôle, mais sans les 25 personnes, enfin les 22 personnes qui travaillent avec nous, on n'avancerait pas. Donc, recruter vraiment les perles rares, les bons profils.
C'est compliqué, ça.
Qui sont aujourd'hui les piliers de l'entreprise et les ingénieurs qui rejoignent l'équipe, qui sont aussi ultra importants. Recruter, oui. J'en ai parlé il y a quelques temps. Il y a des profils. Aujourd'hui, ça devient des compétences très rares. Tout ce qui va être profil IT autour de l'informatique, avec l'explosion du numérique, la digitalisation, ces profils ne sont plus sur le marché. C'est des gens qu'on va débaucher. Avant même qu'ils soient en recherche sur le marché de l'emploi. Donc il faut se donner les moyens, ça prend du temps. Et de par mon parcours, moi j'ai travaillé dans un grand groupe d'ingénierie, je passais des consultants sur des projets dans des grands groupes, donc une partie de mon métier c'était de recruter, et c'est vrai que ça nous a énormément aidés.
Ouais.
De ne pas confier ça à d'autres personnes, mais de l'avoir en interne, on a gagné du temps et on a été assez efficace sur les recrutements.
Grâce à votre expérience dans le recrutement.
La complémentarité, c'est ça. Moi, ouais. Au début, c'était le commerce, le RH, la partie électronique. Et oui, on avait toutes les compétences en interne, en fait, dont le RH.
Est-ce qu'en France, on manque de talent, justement, dans l'IT, dans...
En volume, peut-être, aujourd'hui. C'est vrai que depuis quelques années, on voit bien que l'offre et la demande sont plus équilibrées. Hein. Il y a une pénurie d'ingénieurs IT. Après, les bonnes compétences, on les a. Donc on va dire, si on s'acharne un peu, on arrive à les trouver, mais au global, oui, il manque clairement des ingénieurs IT aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'ingénieurs IT qui partent à l'étranger ?
Je ne pourrais pas me prononcer de façon sûre, mais oui, moi j'ai beaucoup d'amis autour de moi qui sont dans l'IT, qui ont choisi de partir au Canada, dans des pays scandinaves, pour certaines raisons. Oui, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui partent. Parce ouais. que cette pénurie, elle n'est pas qu'en France. Hein. Je pense qu'elle concerne un peu le monde entier aujourd'hui, donc c'est celui qui proposera la meilleure offre. Pour avoir les meilleurs profils
forcément,
et les meilleures compétences.
Forcément. Alors aujourd'hui, donc, vous êtes trois cofondateurs, 25 collaborateurs en tout. Là, comment ça va se passer ? Du coup, la levée de fonds va accélérer le développement, j'imagine. Qu'est-ce que vous envisagez d'ici la fin de l'année et puis début d'année prochaine aussi ?
Alors déjà, nous, on est dans l'action. Donc c'est vrai que la levée de fonds, on l'annonce aujourd'hui, mais on avait déjà anticipé énormément de choses.
J'imagine.
Donc sur les quatre derniers mois, on a bouclé presque 10 ou 12 recrutements.
D'accord.
Donc, ce qui nous a permis de structurer, d'étoffer l'équipe commerciale, marketing, d'étoffer l'équipe R&D, de structurer notre support, la production. Donc, tout est en train de se mettre en place. Nos derniers arrivants sont arrivés hier, donc trois nouveaux profils. Donc, maintenant, on attendait cette rentrée avec impatience. On a eu un été assez bien rempli, mais normalement, la rentrée va booster les activités. Donc, notre objectif, c'est boucler l'année. On a un carnet de commandes qui nous permet d'espérer les 2 millions d'euros cette année. Mais on pense déjà à l'année d'après, chercher des locaux plus grands pour accueillir tout ce monde. Préparer les nouveaux marchés, commencer un peu l'arrivée sur le marché européen, préparer aussi ces nouvelles gammes de produits qui sont liées à cette levée de fonds. Aujourd'hui, on suivait uniquement la chaîne du froid, donc le suivi de température, on avait des systèmes de géolocalisation pour tout ce qui était transport. Mais là, avec la levée de fonds, on va intégrer de nouvelles métriques comme l'accélération, la mesure du CO2, l'humidité, la luminosité et plein d'autres, ce qui nous permettra de viser un marché beaucoup plus large, qui est tout le marché des produits sensibles.
Comme quoi, par exemple ?
Les œuvres d'art, l'industrie au sens large, hein, des produits de peinture, des produits très sensibles, des pièces électroniques, des pièces aéronautiques, automobiles, très coûteuses, très, très fragiles, les animaux, les produits de luxe. Et plein d'autres.
Donc ça va vraiment ouvrir sur un marché conséquent, là. Là, vous ne visez plus que la France. C'est quoi ? C'est l'Asie ?
Alors à court terme, on reste sur le national. Ça sert à rien d'aller chercher à l'autre bout du monde ce qu'on a déjà ici. On est sur un marché avec une énorme profondeur. Si je vous cite par exemple le nombre de camions frigorifiques, il y en a 150 000 en France. Le nombre d'hôpitaux, 2300. Le nombre de pharmacies, 20 000. Le nombre de points de restauration qui peuvent être nos clients, 80 000. Donc on a un marché colossal et en pleine explosion avec ses réglementations, l'explosion des biotech. Donc c'est quand même rester focus sur ce marché-là. Après, en s'ouvrant sur d'autres métriques, ben, on va être encore sur un marché plus large. Et après, on va préparer l'internationalisation, mais avec les moyens qui vont bien. Beaucoup sont... Quand on est une start-up, il y a deux choses qu'on nous met dans la tête. C'est il faut lever, il faut lever, il faut lever. Mais il faut le faire au bon moment et avec des vraies raisons derrière. Et la deuxième, c'est les US. Il faut attaquer les US, l'Asie, etc. OK, très bien. Mais moi, j'ai vu beaucoup de start-up se brûler les ailes. Lever des fonds pour aller aux US, mais lever 2-3 millions, ce qui n'est pas suffisant pour aller à l'international. Donc nous, aujourd'hui, on n'est pas encore dans une phase d'attaquer le marché américain, même si ça, ça nous pend au nez et on y pense énormément. Mais il va falloir être patient encore un an ou deux.
Ce serait une consécration ?
Oui, ce sera la poursuite de la croissance. Et c'est vrai que nous, on est un peu éternellement insatisfaits quand... On a gagné des grands comptes au-delà du million d'euros. On était super contents, mais le lendemain, on pensait déjà à l'étape d'après. Comment atteindre les 10 millions d'euros? Comment préparer l'Europe, etc. Donc, on garde les pieds sur terre et étape par étape.
Et là, vous disiez une levée de fonds, il faut que ça arrive au bon moment. C'est quoi le bon moment? C'était quoi le bon moment pour vous?
Le bon moment, c'est pas trop tôt, pas trop tard. Trop tôt, des fois, il y a des startups qui se retrouvent en difficulté, qui ont besoin de cash pour développer l'idée, le concept, et qui vont avoir une valorisation pas suffisamment importante. Donc, ils vont lever 100-200 000 euros, mais qui vont donner une part de leur capital et qui pourront pas forcément, le step d'après, être redilués si les fonds d'avant ne veulent pas sortir. Donc, se retrouver un peu bloqué si on lève trop tôt. Faut pas lever trop tard parce que le game peut s'être fait sans nous. Donc faut trouver ce bon timing. Nous aujourd'hui c'était parfait. On a fait nos preuves plus que ça même en dépassant 1 million d'euros et en signant des très grands comptes sur la France. Donc c'était le meilleur moment aujourd'hui pour dire allez on veut booster l'activité et on va lever des fonds pour aller chercher tout ça.
D'accord. Quelles sont les erreurs, si on a eu, que vous avez commises, que vous ne recommenceriez pas et qui vous ont un peu marqué pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent?
Il y en a plein. Moi, je dis toujours, on apprend de ses erreurs. Faut pas avoir peur d'en faire pour avancer. Nous, on fonce, mais à un moment, on lève toujours un peu la tête pour se dire bon, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. Je sais pas, je dirais c'est pas vraiment des erreurs, on les tourne toujours au positif. Nous volontairement on a ouvert volontairement notre marché pour le tester, pour aller partout. Après on a fermé des portes parce qu'on a vu que c'était pas des marchés porteurs, mais il fallait faire, je sais pas si on peut appeler ça une erreur. Après je vois pas vraiment d'erreur, il y en a plein pourtant, mais je dirais plutôt faut pas avoir peur de se tromper. Il faut se lancer, faire une bêtise, je sais pas, sur une négociation ou autre. On va se planter une fois, mais la fois d'après, on aura compris ce qu'on a fait de mal et on sera encore meilleur la fois d'après.
Vous parliez de bien s'entourer, que c'est primordial pour une start-up, pour une équipe. Ça a été toujours le cas? Vous êtes toujours bien entouré?
Oui, ça c'est pour moi les fondamentaux. C'est seul, au début on est seul pour écrire un projet, mais rapidement, si on n'a pas la bonne équipe qui va autour, on ne va pas loin. C'est une complémentarité, on ne peut pas tout faire. Moi, j'étais ingénieur électronique, commercial, avec des compétences un peu RH. Mon associé était ingénieur en informatique. Ça nous a permis de...
Yoann Caboni. Ouais.
Donc, ça nous a permis à nous deux de concevoir la solution dans son entièreté, sans sous-traiter avec des intervenants externes, ce qui est assez souvent compliqué. John Aldon, lui, avait créé une start-up dans laquelle j'ai travaillé, qui s'appelle Matouma, qui a été une très belle success story à Montpellier. Donc, il nous a fait profiter de toutes ses réussites pour déjà éviter les erreurs que eux avaient fait.
Son expérience.
Donc voilà, on avait une équipe ultra complémentaire. On avait la niaque. C'est vrai que on comptait pas nos heures. On n'avait pas peur de foncer, d'avancer. Et c'est ça qui nous a permis de franchir les étapes une par une. Mais après, il y a eu les premiers recrutements des gens sur la partie technique, la R&D. Là, on cherche les meilleurs profils. On a envie d'avoir la meilleure techno, le meilleur produit. Donc, il faut pas se louper. Il faut prendre le temps. Pareil sur la partie informatique, pareil sur le commerce, le marketing. Et aujourd'hui, on est super content de l'équipe qui nous entoure parce que c'est grâce à eux, faut le dire, qu'on en est là.
Est-ce que c'est compliqué de déléguer quand on est à l'origine d'un projet, quand c'est notre idée, notre bébé? Après, voilà, le remettre entre les mains d'autres personnes qui sont forcément indispensables pour développer ce projet, etc. Mais est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce qu'on n'a pas une petite appréhension?
Clairement, si. Je me revois quelques années en arrière. C'est vrai que c'est son bébé. On a envie de tout maîtriser, de passer derrière, de vérifier, etc. Ça marche au début. On peut être partout, mais après, quand on est 25, on a largement appris à déléguer. Et voilà, les gens gagnent notre confiance et ça se passe très bien. Mais c'est vrai qu'au début, ouais, on a du mal un peu à lâcher, on a envie de tout contrôler. Mais rapidement, si on a pris les bonnes personnes, ça se fait tout seul.
C'est une question de confiance.
Si derrière, on passe notre temps à être derrière, il faut peut-être se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème au fond ?
Un problème de recrutement, du coup, dans ce cas-là.
Un profil non adapté ou voilà, quelque chose qui ne matche pas.
Comment vous les avez rencontrés, les autres cofondateurs? Vous les connaissiez, c'était des amis. Là, vous disiez, John Aldon, vous aviez travaillé dans sa start-up. Donc, c'était une relation professionnelle.
C'est ça.
Et Johan Caboni, comment ça s'est passé, en fait là?
Bah, dans une start-up, au début, c'est professionnel, mais rapidement, on brise ces codes-là. Donc, John Aldon, ils m'ont chassé quand j'étais déjà sur ce projet. Mais au début, donc, sans savoir vers quoi ça allait aboutir. Et en travaillant là-bas, on a gagné des gros concours. Le projet devait être lancé. On avait créé un certain lien d'amitié. Donc, bah, il m'a dit, écoute, tu pars, mais moi, je veux te suivre. Il sentait peut-être un peu la fin de Matouma et se dire, bah voilà, c'était un peu son projet d'après. Donc ça s'est bien fait. On était complémentaires, on a 10 ans d'écart, donc il a une vision que nous n'avons pas forcément. Il a fait ce développement avant, donc il nous a fait profiter de plein de succès, éviter les échecs. Et Johan, c'était un ami de longue date qui, un matin, me dit, écoute, j'ai envie de rentrer dans ton projet. Et je ne lui avais jamais fait la proposition.
Vous lui en parliez comme ça en tant qu'ami, quoi?
Je parlais à tous mes amis de ce projet et je pense qu'il avait envie de dynamiser un peu sa carrière. Et il a eu le courage parce qu'il m'a rejoint où il n'y avait rien. Et il m'a dit, moi, je prends le risque avec toi. Laisse-moi un mois ou quelques semaines. Il m'a dit, et au bout de ces deux semaines, il m'a dit, écoute, je me lance. Je pose ma démission, je te rejoins. Et donc là, c'était super parce qu'on était ultra complices, on se connaissait depuis 10 ans, donc ça a été une grande facilité de développer le projet ensemble.
Et justement, prendre le risque de passer entrepreneur quand on est salarié?
Il ne faut pas réfléchir. Si on pense à tous les risques qu'il y a derrière, on n'avance pas. Il faut penser qu'au positif.
Mais il faut prévoir quand même.
Oui, c'est vrai. Oui, on calcule un minimum. Aujourd'hui, on est quand même super bien aidé avec le maintien du chômage. Donc, vous quittez votre entreprise précédente. L'État, aujourd'hui, cautionne la création d'entreprise et permet d'avoir le maintien de vos droits. Et rapidement, on a gagné des concours qui ont permis de financer. Et bon, on s'est dit, si l'histoire s'arrête un jour, on ressort de l'agrandi. Financièrement, on n'a pas besoin de mettre des sommes folles pour lancer un projet. Donc, si ça s'arrêtait, on repartait sur d'autres expériences. Mais on n'a pas hypothéqué de maison, on n'a pas envoyé toutes nos économies. Je trouve qu'aujourd'hui, ça a pas mal évolué. On est tellement bien aidé que...
On est privilégié en France ?
Je sais pas, j'ai pas trop de recul. On dit toujours que le meilleur endroit pour développer une activité, c'est aux États-Unis. Mais la France est en train de réagir.
On est plutôt pas
ça.
Mal en France.
Et je rentrerai pas dans ce débat, mais moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment bien lotis.
Ouais.
Et on ne s'est jamais dit, il faut qu'on aille aux US, on n'a pas ce qu'il faut à Montpellier, en France. On a toujours été super bien accompagnés.
Oui, ça c'est quelque chose.
Financièrement et avec les structures qu'il y a eu autour.
Oui, les incubateurs, etc. Enfin, ça c'est mieux après, mais d'accord. Est-ce qu'il y a des conseils que vous donneriez à des personnes qui hésitent à se lancer, qui ont comme vous une idée, comme en 2015, des personnes qui se disent « j'ai un truc, je tiens quelque chose », quel conseil vous leur donneriez ?
À la fois de foncer, pas se poser de questions. Moi, je suis quelqu'un d'assez persévérant. Quand j'ai une idée en tête, on va pas dire têtu, mais quand je veux quelque chose, je vais jusqu'au bout pour l'avoir. Donc de la ténacité plutôt, on va parler de ça. Donc quand on a une idée et qu'on y croit, il faut la développer. pour aujourd'hui, on n'a qu'une vie, faut être épanoui. Donc moi, j'ai pas envie de vivre dans la frustration, donc je suis un fonceur. Par contre, il faut quand même réfléchir, est-ce qu'on se sent capable ou pas ?
Est-ce qu'on a les épaules ?
C'est ça, après on peut le devenir. Hein. Moi, la personne que je suis aujourd'hui, j'ai encore énormément à apprendre. On apprend tous les jours, mais c'est vrai que la personne que j'étais il y a 5 ans, après avoir bossé 3-4 ans en entreprise, j'étais pas la même personne. Et aujourd'hui, je me dis pas meilleur qu'un autre, mais bah, c'est vrai qu'on a appris énormément, ça a été formateur. Mais il faut... J'ai l'impression que des fois, c'est la voie de la facilité. Bon, on est un peu en reconversion, on va dire, on va créer une entreprise, mais on sent que certaines personnes forcent un peu les choses.
Il n'y a pas vraiment d'idée à la base de leitmotiv, c'est voilà, il faut
c'est
le
ça,
faire.
C'est un peu la mode. Ouais. Au lieu de dire « je suis au chômage », on dit « oui, je suis en train de créer quelque chose, je suis en train de monter la start-up ». Donc, il y a un énorme tri qui se fait. Mais à l'inverse, il y a des gens qui sont dans des entreprises, qui ont des idées formidables, ouais, qui ont le profil et qui vont avoir peur de se dire « ouais, mais j'ai un très bon salaire, moi
la
j'ai
vie
perdu,
de famille aussi.
J'ai la vie de famille ». Moi j'avais des salaires très confortables, c'est vrai que je suis parti pour me retrouver au chômage, donc avec une perte directe, mais un épanouissement qui était complètement différent, donc je regrette pas ça. Donc je dirais à ces gens qui se sentent les épaules mais qui ont peur, mais de foncer, de pas se poser de questions, on n'a qu'une vie et faut pas le regretter. Et après, si ça se solde par un échec, on ressort toujours de la grandie de toute façon.
À aucun moment au début, parce que là j'imagine que non, vous n'avez regretté. Est-ce qu'il y a eu des moments d'hésitation, un peu de latence ? Est-ce qu'il y a eu des moments de questionnement ?
Oui, on fait un peu abstraction de ça, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments de doute au début. Est-ce que je suis pas fou de faire un an ? Enfin, les mêmes choses que je disais juste avant. J'avais un poste ultra confortable, un très bon salaire, une voiture de fonction, une équipe formidable. Mais un épanouissement où voilà, je travaillais pour quelqu'un, j'étais tombé un peu dans une routine. Et depuis la fin de mes études, même avant ça, j'avais envie de créer ma société. Donc j'étais un peu dans la frustration. Donc j'étais un peu en doute. Mais dès que j'ai pris le virage, tous les doutes se sont enlevés. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et ça n'a fait que confirmer. Après, ouais, on a eu des moments de doute, un projet perdu, un financement qu'on n'a pas eu comme on voulait. Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais de suite, on voit le verre à moitié plein et on rebondit là-dessus. Les échecs nous rendent plus forts.
Et ça, c'est le fait d'être à plusieurs, de rebondir plus vite, le fait d'être ensemble, tout seul. Est-ce que ça aurait été pareil ou pas ?
Non, clairement, l'équipe, dès qu'on se sent accompagné, quand on est seul, c'est vrai qu'on peut traverser un peu par ces moments de doute. Qu'est-ce qu'on fait ? Dès qu'on a une équipe, c'est plus pareil. On se sent plus fort, on est complémentaire. Quand un peut être un peu dans une période de creux, l'autre est à fond, on se complète aussi là-dessus. Et aujourd'hui, quand on voit qu'on est 25, c'est encore plus motivant. C'est de se dire, on est 25, on va pouvoir faire des choses fantastiques.
Ouais. Merci beaucoup, Adrien Content. Je rappelle que vous êtes donc CEO et cofondateur de Covea. Et encore félicitations du coup pour cette nouvelle qu'on a apprise hier, la levée de fonds, cette
merci
belle
beaucoup.
Levée de fonds de 2,5 millions d'euros. Bravo et merci d'être venu sur le plateau d'Objectif Startup.
Avec plaisir. À bientôt.
À bientôt.
Objectif Startup, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Cowork la radio et sur toutes les plateformes de streaming.